Bonjour et bienvenue à Je vais au ciné, tous les lundis à 14h, sur Studio Zef. Avec moi aujourd'hui, j'ai Mickaël.
Et StudioZef.fr aussi.
Et StudioZef.fr.
Eh oui.
Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Nous, on n'est pas en grève.
Oui, on ne fait pas la grève.
Et ça dénonce.
Mais on n'est pas payé non plus. Et avec
un
moi,
scandale.
Et avec moi, j'ai aussi Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine. Aujourd'hui, on va parler des nominés aux Oscars.
Oui.
Alors, c'est dans 2 semaines à peu près. Enfin, à la fin de la semaine prochaine.
Le 9 février.
Le 9 février,
prochain,
la fin de la semaine prochaine.
Ouais.
Et enfin, je ne sais pas si vous allez suivre le, comment dire, le
suivre, dire. Non, mais le résultat, je
le résultat vous allez voir, mais peut-être pas la cérémonie. Voilà,
c'est non, bah non, bah ça c'est chiant comme la pluie. Enfin, c'est chiant comme la pluie, j'en sais rien, mais non, bah ça m'intéresse pas. Mais oui, le matin, au petit déjeuner, je regarderai.
C'est surtout qu'en fait, vu que c'est aux États-Unis, c'est diffusé à un horaire où on est en train de pioncer.
Il y a des chances.
Ouais. Voilà, c'est juste surtout ça en fait.
Oui, mais même si je pense que si c'était diffusé à un horaire décent, je regarderais pas. Enfin, je suis pas fan de ce genre de truc.
Donc, on va parler quand même des nominés.
Oui.
Alors, la première chose que je peux en dire avant de parler des films, c'est que globalement, les films reviennent dans quasiment toutes les catégories. C'est-à-dire que s'ils reviennent pas
dans les grosses catégories.
Dans les grosses catégories.
Dans les grosses catégories. Après.
Alors, on a dans les meilleurs.
L'année 2020 se résume en 10 films.
Globalement, c'est ça.
Faut rappeler quand même que les Oscars, c'est les films américains.
Américains.
Il n'y a pas que les films américains, heureusement, dans le monde.
Oui.
C'est principalement parce qu'il y a quand même.
Mais pas
un,
que.
Il y en a quand même un qui s'est glissé dedans, qui n'est pas américain quand même.
Oui, Parasite. Ouais, ouais.
Ah, lui, il s'est glissé partout, lui. Tu sais, c'est vraiment comme le film, tu sais. Il a parasité
L'Oscar du film étranger et l'Oscar du meilleur film tout court. Ouais,
tout court, il est dans d'autres, même dans d'autres catégories. On a The Irishman, qui n'est pas un film qui est sorti au cinéma.
Et Marriage Story, oui, il y a deux films Netflix.
Mais en fait, il y a 3 films Netflix dans l'absolu, dans la liste des.
Pourquoi c'est quoi le 3e?
Non, il n'est pas en meilleur film.
Ah non,
le 3e.
Je dois peut-être confondre avec. Je dois confondre peut-être avec les.
On a aussi Jojo Rabbit.
De quoi? C'est Les deux papes, tu veux dire?
Ouais.
Oui, mais Les deux papes, il n'est pas en meilleur film.
Ouais, mais au final, il y a 3.
Mais
films.
Effectivement, oui. Oui, tout à fait.
Donc on a Jojo Rabbit, on a Joker, on a Les filles du Dr. Marsh, on a Mariage Story, on l'a dit. On a 1917 et on a Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Dont on a entendu pas mal parler, surtout en pub. Enfin, moi, j'avais vu des pubs partout.
On a énormément parlé.
On va surtout parler de ces films-là, parce que. Alors après, il y a Les deux papes qui sont aussi là. Il y a Douleur et gloire aussi, dans quelques.
Ouais, alors attends, allons pas. Voilà. Ouais, meilleur film.
On
s'éloigne.
On va
les pronos.
Entre les meilleurs films.
Les pronos.
Mika. En pronos, ouais. Vu le résultat du Golden Globe.
C'est quoi le résultat du Golden Globe?
En meilleure comédie, Golden Globe du meilleur film dans la catégorie comédie, c'est Once Upon a Time in Hollywood.
Oui.
Et en meilleur film dramatique, c'est 1917.
D'accord.
Alors, honnêtement, la plupart du temps, les films qui sont nominés, enfin qui ont gagné le Golden Globe, très souvent gagnent l'Oscar dans la suite. Le Golden Globe, c'est un peu l'antichambre et c'est réputé pour ça.
Nominé ou non?
Des Oscars. Comment?
On dit nominé ou nommé?
Les nominés
et puis le lauréat.
D'accord. Le lauréat, mais voilà. C'est nommé, c'est un film nommé ou un acteur nommé.
Voilà, ça dépend comment tu tournes ta phrase.
D'accord.
Et honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit. Je penche pour Once Upon a Time in Hollywood, qui a toutes les chances, à mon avis, de gagner l'Oscar. Parasite. Il aura l'Oscar du meilleur film étranger. Je pense pas qu'il passe devant tout le monde.
Bah, j'aimerais bien, moi, mais ça m'étonnerait.
Ouais, moi aussi, ça m'étonnerait. Les filles du Dr. Marsh ont Le Mans 66, Joker, oui, on aime bien, mais bon.
Non, Joker, c'est une blague.
Le Mans 66, déjà, il est pas nommé. Donc, comme ça.
Si, il est meilleur nommé. Film. Le Mans 66, il est nommé en meilleur film.
Ah, bah, je l'ai pas, moi.
Il est nominé ou il est nommé?
Il est nommé, c'est un des nominés.
D'accord.
Je l'ai pas dans ma liste, c'est bizarre ça.
Si, Le Mans 66, il y est, ouais. Le Mans 66, il y a Irishman, Joker, Les filles du Dr. Marsh, Maria Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Ils sont 8 films. Donc, moi je pense que ça sera Once Upon a Time in Hollywood
Mais j'en ai un de plus,
ou 1917. Je sais pas trop. Alors, comme je disais, Joker, Les filles du Dr. Marsh, Le Mans 66. Bon, j'y crois.
Le Mans 66, c'est pas un film. Enfin,
j'y crois pas du tout.
Quand je vois la catégorie là, quand je vois les films qu'il y a, Le Mans 66, il est très bon, mais
on
il
joue
est pas
dans
du...
la même cour. Ouais, ouais, voilà. C'est ce que je pense. Ils sont bien gentils, mais voilà, ils tiennent pas la distance. Ah. Et Marriage Story et The Irishman, ils pourraient avoir leur chance. Je pense, surtout The Irishman. Je pense qu'il aurait plus ses chances. Mais le problème, c'est qu'il est produit par Netflix. Et je pense que les Oscars ne sont pas prêts à récompenser un film Netflix.
Ouais,
donc, de fait, je pense que c'est ça leur plus gros problème. Je pense qu'ils ne sont même pas envisagés parce que ce sont des productions Netflix. Je le ressens comme ça, en tout cas.
Je regarde sur un deuxième site et je te confirme que Le Mans 66 y est. Mais alors, je sais absolument pas quel film il y a.
À travers cette histoire.
Non, on va pas refaire la liste, c'est bon, on a la bonne liste.
Ouais. Donc, je ne sais pas.
Donc, ouais, voilà. Moi, je pense pareil.
Tu penses à qui, toi ?
Moi, je pense à Once Upon a Time. En fait, en plus, c'est le cinéma qui parle du cinéma. Donc, l'autofellation, ça leur a toujours fait plaisir aux Américains. Donc, moi, j'aimerais que Parasite gagne. Comme ça, il peut pas gagner le film étranger. Et comme ça, c'est Les Misérables qui gagnent. Mais
honnêtement, ça m'étonnerait que Parasite n'emmène pas l'Oscar du meilleur film étranger. Et honnêtement, ça me ferait bien plaisir qu'il remporte le meilleur réalisateur.
Par contre, meilleur réalisateur, alors on a Martin Scorsese.
Pour The Irishman.
Ouais. Todd Phillips.
Pour Joker.
Sam Mendes.
Pour 1917.
Quentin Tarantino.
Pour Once Upon a Time in Hollywood.
Et Bong Joon-ho.
Parasite.
Putain, on a l'impression qu'on a travaillé.
Et oui, ben on a travaillé.
Mais pas beaucoup, mais un peu travaillé.
Voilà, il faut... Non, honnêtement, j'aimerais que ce soit Bong Joon-ho.
Moi, j'aimerais aussi. Ouais.
Moi aussi, mais ça m'étonnerait.
Je pense qu'il a ses chances.
Je pense que Todd Phillips qui va l'avoir.
Hein ?
Ah oui, je pense que c'est Todd Phillips qui va l'avoir.
Vraiment, t'as une cinéphilie bizarre, toi.
Non, mais c'est pas personnellement.
Non, mais honnêtement, il y a moyen.
Je pense que c'est lui qui va l'avoir. Ou alors 1917.
Ou Sam Mendes. Sam Mendes, il y a peut-être moyen.
Mais je pense
j'espère
que les trois
pas
autres...
Todd Phillips quand même, parce non, que Todd Phillips quand même, il est pas ouf en réalisateur.
Ah ouais, mais je pense que c'est un de ces deux-là. Les trois autres, je pense qu'ils ont aucune chance.
Tu vois, Joker à la limite dans le film de l'année, parce qu'il y a eu un tel retentissement, pourquoi pas. Tu vois, non mais dans les manifestations, il y avait des gens qui étaient grimés. Le film, il a marqué, on va dire, mais le réalisateur.
Oui, mais honnêtement, j'ai envie de te dire que Joker, j'espère pas que il aura pas le meilleur réalisateur, parce que je pense que d'office. L'Oscar du meilleur acteur, c'est Joaquin Phoenix. Donc je pense que c'est assez.
Alors le meilleur acteur, alors on va laisser quand même les citer les meilleurs acteurs.
Alors meilleur acteur, Antonio Banderas pour Douleur et gloire, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver pour My Story, Joaquin Phoenix pour Joker et Jonathan Pryce pour Les Deux Papes. Et je réitère, pour moi ça va être Joaquin Phoenix parce que
Adam Driver, je pense pas, encore une fois le film
est Netflix, ça le problème.
Ouais, mais je sais pas si aux États-Unis ils ont ce problème là, hein. Les films ils sont sur Netflix et aussi
ils en ont encore récompensé aucun,
c'est encore difficile au festival de Cannes, c'est difficile.
Non mais Cannes c'est la France, c'est autre chose.
Non, parce que en règle générale le jury, il n'est pas français.
Oui, mais c'est les règles françaises. Le jury peut venir...
C'est international. Le festival de Cannes, ça se passe en France.
Mais c'est régi par les règles françaises. Enfin, il y a le CNC qui est derrière.
C'est vrai qu'il y a le CNC.
Non, c'est pas...
Ça dépasse un peu le CNC.
Après tout, moi, j'aimerais bien que Adam Driver ait le meilleur acteur pour Marriage Story.
J'y crois pas trop.
Comme j'aimerais que ce soit Scarlett Johansson pour Marriage Story dans meilleure actrice, mais j'y crois pas trop.
Alors, DiCaprio, vous l'oubliez, hein, parce que déjà que je l'aime pas.
Il fronce ses sourcils.
Voilà, il l'a déjà
j'en
eu.
Sais rien.
Antonio Banderas, je sais pas comment il est dans Douleur et gloire, mais
j'ai jamais vu de.
C'est pas terrible.
J'ai jamais vu de film de
Almodovar.
Ce film, je pensais qu'il gagnerait la Palme d'Or.
De quoi? Douleur et.
Ouais, Douleur et gloire.
Et non.
Ah, quand voilà. Antonio Banderas, je crois, qui a eu la Palme du meilleur acteur, donc tu dis bon là c'est mort.
Oui, il a eu la Palme du meilleur acteur, c'est vrai.
Ah oui.
Ouais.
Ok. Non, il a vraiment... peut-être ses chances alors.
Non, mais moi je vois Adam Driver, mais parce que j'aime Adam Driver.
Ok. Meilleure actrice, on a Cynthia Erivo avec Harriet.
J'en connais aucune.
Scarlett Johansson, tu la connais pas avec Marriage Story.
Je sais pas qui c'est.
Cers.
C'est ça le truc.
C'est ça, ce nom imprononçable. Cers Ronan.
Les filles du Docteur Marsh.
Ouais.
Charlize Theron pour Scandale.
Et
René Zellweger pour Judy.
Je connais aucun.
Alors en mon cœur, le plus profond, je dirais que Scarlett Johansson mérite amplement un Oscar parce qu'on l'a jamais, on lui a jamais refilé.
Elle fait
de
la merde.
Mérite.
C'est normal qu'elle touche pas d'Oscar. Il y a un moment, faut qu'elle bosse. C'est pas parce qu'elle a fait, c'est pas parce qu'elle a bossé une fois dans sa carrière. Que...
non mais attends. Je crois que je vais devenir violent. Je vais devenir violent.
Attends, je pense pas que ce soit elle qui l'aura. Je pense...
Non mais elle l'aura pas. Allez, je sais.
Pense que ce sera
mais
Charlize Theron.
Mérite. Moi je pense plutôt Renée Zellweger.
Mais c'est quoi son film, l'une ou l'autre de toute façon.
Judy, c'est quoi?
Ben, c'est un film qui n'est pas sorti en France.
Ah. Pas encore.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. C'est le retour de Judy.
Mais je pense que Charlize Theron ou Renée Zellweger vont l'avoir. J'ai plus une tendance pour Charlize Theron que pour Renée Zellweger.
Là, je pense que ça va être Renée Zellweger parce qu'elle a eu le Golden Globe en fait.
Oui, ouais. mais ça cale pas
Golden
toujours.
Globe, ouais,
parce que très clairement, c'est là, rare que les Oscars contredisent les Golden Globes. Ça arrive.
On va
pas se cacher, ça arrive.
Ça arrive.
Bah bon.
Plus fréquent que ce que tu veux bien dire.
Oh, plus fréquent, oui, mais rarement sur les grands, sur les grands prix.
Donc meilleure actrice dans un second rôle, on a Kathy Bates. Pour Richard.
Donc alors, attends, c'est quoi là, on a statué sur qui là?
Alors moi Charlize Theron, lui Renée Zellweger. Voilà, on a chacun notre avis, on est tous les deux à peu près d'accord que c'est l'une des deux.
Parce qu'il a un charisme.
Ah ouais, d'accord.
Moi je le suis, Mika.
D'accord. Meilleure actrice dans un second rôle, on a Kathy Bates avec Richard
Richard Jewell, le dernier Clint Eastwood.
Ah. Laura Dern pour Marriage Story. Mm-hmm. Scarlett Johansson de nouveau pour Jojo Rabbit.
Ah bah voilà, yes. Ça y est.
Florence Pugh, je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Les filles du Dr March et Margot Robbie pour Scandale. Là, je sais pas. Moi personnellement, à part
Je veux dire Laura Dern parce que je suis amoureux d'elle
mais je pense que tu as raison.
C'est à aucun parce qu'elle a un petit rôle hein.
Je pense que Laura Dern le fait de donner un Oscar à Laura Dern va être le côté un petit peu politique qui ne dit pas son nom des Oscars parce que dans Marriage Story, elle a un moment dans le film où elle sort un monologue très féministe qui a été repris par les féministes et tout ça et qui est pas faux hein, qui est superbement interprété, qui est bien écrit et voilà, je remets pas ça en question, je suis d'accord à 200% avec ce qu'elle a dit, mais je pense que rien que pour ça on va lui filer la statuette. Je pense que c'est juste pour ça le côté, vous voyez Hollywood est progressiste, on récompense les actrices qui sont féministes.
Ouais, moi je suis voilà. Juste amoureux d'elle en fait, enfin,
voilà.
Enfin, je suis amoureux de l'image qu'elle a dans ses films.
Regarde dans Les filles du Dr March, elle joue la mère. Ah. Elle est géniale. Elle est franchement
géniale. Elle est cette espèce de bourgeoise un peu froide, là.
Oui, ouais. Et elle n'est pas froide, en fait. Elle est ultra chaleureuse dans ce film.
Donc, on part sur Laura Dern. Alors, je ne sais pas trop, oui. Je connais cette actrice, mais je ne sais pas.
Florence Pugh est pas mal dans Les filles du Dr March, mais elle n'est pas au niveau de Laura Dern. Et elle est trop jeune pour être au niveau de Laura Dern.
Oui, mais c'est des fois, il récompense sa jeunesse aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, mais là, je pense que l'expérience fera la différence.
Peut-être, on verra. Meilleur acteur dans un second rôle, on trouve Tom Hanks. Alors, on ne sait pas pourquoi il est là. Un ami extraordinaire.
Parce que tout le monde aime Tom Hanks.
Anthony Hopkins pour tout...
Sauf Antoine.
Pour The Two Pops. Al Pacino pour The Irishman. Joe Pesci pour The Irishman. Et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Donc, des gros acteurs.
Alors, je sais que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas les images, mais Antoine est au bout de sa vie quand il a vu deux nominations pour The Irishman.
Non, mais je me dis, c'est d'une tristesse au
il
final.
Il en peut plus.
Mais c'est quand même 5 acteurs qui n'ont pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, en second rôle,
ouais,
ils ont
plus,
fait des rôles
ça,
des,
ouais.
de premier plan. Ils n'ont pas besoin de ça. Aucun.
Allez, Anthony Hopkins, parce que voilà, mais les deux papes, ils gagnent rien.
Mais oui, Anthony Hopkins, parce que je l'aime bien et que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose.
Ouais, il sort d'un film Marvel, là, pareil, ça fait 10 ans qu'il fait du Marvel, là,
qui joue. Exceptionnel, c'est ce que je dis.
Donc un peu comme l'autre, Scarlett Johansson. Non, je ne le donne pas Scarlett Johansson, parce qu'elle a fait un bon rôle dans toute sa vie.
Tom
Hanks,
plus.
Non,
beaucoup plus.
Tom Hanks, non. Al Pacino Joe Pesci pour leur carrière quoi.
Moi je crois honnêtement que
vous êtes dur avec Tom Hanks.
Moi je regarderai à la télé la cérémonie. Arrivé là, j'éteindrai ma télé en fait.
Moi je pense que ça sera Brad Pitt.
Mais Brad Pitt tu diras.
La tristitude.
La tristitude. Moi je pense que ça pourrait être Al Pacino ou Joe Pesci pour leur carrière quoi.
Moi j'hésite entre Al Pesci ou Joe Pacino. Je sais pas. Oh non mais Al Pacino il est nul en plus dans ce film. Non, mais... oh, ils les ont pas vus les films.
Il est au bout de, il est au bout de la, il est au bout de sa vie. Je bon, vous l'avais dit.
On fait rapidement les films étrangers, les films d'animation, et puis on fera la musique pour te faire plaisir, notre.
Ouais, je serai rapide.
Alors, dans les films étrangers, on a Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables, Douleur et Gloire et Parasite.
Oui, bon, on va pas se mentir, hein, Parasite va les écraser.
Parasite, je pense qu'il
si pas Parasite, fait... il écrase pas, c'est Douleur et Gloire.
C'est Douleur et Gloire, voilà.
Ou alors, bon, allez, Les Misérables.
Non, j'y crois pas, Les Misérables.
Les Misérables, j'y crois pas. C'est déjà bien qu'ils soient nominés.
Ouais. Oui, déjà.
Je trouve que déjà, je pense que déjà, ils sont contents, les mecs.
Ah, si, si, ils aiment aussi le côté un peu politique du film. Enfin, tu vois.
Oui.
Regardez, on est conscient que ça.
Oui.
Bon.
Oui, mais
bon,
bon
non, mais...
Parasite.
Voilà.
Parasite a dominé l'année 2019 et clairement il va dominer l'année 2020, je pense. Enfin, du moins toute la première.
Il va parasiter l'année
2020. Il va parasiter l'année 2020.
Les meilleurs films d'animation, il y a Dragon 3, Le Monde Caché, J'ai perdu mon corps, Klaus, Missing Link et Toy Story 4. J'espère que ce sera J'ai perdu mon corps, mais je pense que
rêver.
Ce sera ou Toy Story ou Dragon.
Et non, mais franchement, la catégorie meilleur film d'animation, si c'est pas un gros doigt tout au film.
Un autre film de la Netflix, hein, Klaus,
ouais. Netflix, hein. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il l'aura pas, pourtant il mériterait. Voilà, il mériterait.
Moi, je veux dire, j'ai
pense
perdu
que
mon corps,
j'ai perdu
non,
mon corps,
c'est...
le mérite le plus.
Non, mais, côté, mais l'Oscar du meilleur film d'animation, je supporte pas cette catégorie parce que c'est vraiment un gros, gros doigt au film d'animation. Ouais. Oh, bah oui, c'est vrai. Parce que
c'est vrai.
Pourquoi l'Oscar du film d'animation a été créé? Parce que ils ont dû récompenser et ça les a. Chier, pardonnez-moi l'expression, de nominer en meilleur film La Belle et la Bête. Alors ils se sont dit, purée, ils commencent à faire des films d'animation bien. On va créer un Oscar du meilleur film d'animation, comme ça ils se batailleront dans leur coin.
Non,
ces films d'un sous-genre de la sous-culture.
Moi je suis d'accord, parce que Monsieur Patate dans Toy Story 4, il joue bien, voire aussi mieux, voire mieux que Scarlett Johansson. Et c'est vrai que.
Je vais te frapper.
Si on veut donner une chance à madame, bah, il faut les séparer.
Je vais te frapper.
Moi, je dis Monsieur Patate.
Donc, alors, tu veux nous parler de la meilleure musique?
Alors là, on va être. Je vais aussi être très, très, très succinct. Les nominés. Alors, il dure Good Night to Tear pour Joker.
Super.
Voilà. Avec ça, Alexandre Desplat pour Les Filles du Docteur March.
Ça, on connaît mieux.
Randy Newman pour Marriage Story, Thomas Newman pour 1917 et John Williams pour Star Wars, l'ascension de Skywalker.
Alors déjà, le dernier, si on peut éviter, ce serait bien.
Bah, c'est sa 52e nomination à John Williams.
Oui, mais
il en a gagné
c'est
combien,
peut-être pas pour le meilleur des films.
Il
là.
En a gagné.
Oui, non, mais alors ça qui récompense...
Je veux pas dire de bêtises, mais il doit en avoir gagné...
Quelques-uns.
Oh, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Ah non, il doit en avoir gagné 5 ou 6, un truc comme ça.
Ah, c'est déjà pas mal.
Ennio Morricone, il a gagné sur un film de Tarantino. Oui, mais il y en a un, c'était
un Oscar d'honneur pour sa carrière et un Oscar pour Les 8 salopards.
Et là, tu sentais qu'ils lui ont donné parce que tu dis, oh, Pépé, il va bientôt mourir. Donc,
on va peut-être lui en donner.
Ouais, lui en donner
oui, et parce qu'on le.
Donc, j'ai John Williams, il peut très bien avoir du
oui,
Star Wars. Hein.
Et, oui, parce qu'on l'a fraudé. Et parce qu'on l'a carrément fraudé pour quelques années auparavant parce qu'il aurait dû gagner l'Oscar pour. Comment il s'appelle ce film le nom m'échappe.
C'est pas grave.
Tu parles de qui là?
Ennio Morricone. On lui a carrément volé l'Oscar et tout le monde s'accorde là-dessus pour.
Il était une fois dans l'Ouest, non?
Non, beaucoup plus tard. Gabriel Obose, comment que ça s'appelle avec les moines là, les jésuites.
Le.
Mission.
Je connais même pas.
Mission qui a été la Palme d'Or qui a gagné la Palme d'Or la même année et du coup on lui a volé l'Oscar. Voilà.
Okay,
bref,
okay.
On va faire simple. Alors du coup, John Williams, l'ascension de Skywalker. Franchement, je vois même pas pourquoi il est nominé parce que franchement, elle a rien de ouf cette bande son.
Oui, mais juste parce que voilà, c'est.
Voilà. Marriage Story, ça, la bande son, elle est mignonne, mais bon, de là, arrêtons la blague. Hein. 1917, pareil. Alors Joker, il y a une émule sur la bande son du Joker. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je la trouve, mais alors, OSEF à fond, on s'en fout, elle est banale et ennuyeuse. Franchement, j'ai failli m'endormir en l'écoutant. Je pense que c'est Joker quand même qui va l'emporter, comme il a fait les Golden Globes. Mais j'espère que ça sera Alexandre Desplat pour Les Filles du Docteur March, parce qu'il a fait une bande-son qui est franchement super cool. Et ça ferait son troisième Oscar, et ça serait cool.
Ben, voilà. Pourquoi pas, mais je doute que franchement.
Moi j'espère que la meilleure chanson originale ce sera Into the Unknown.
Into the Know de la Reine des Neiges.
La Reine des Neiges. Oui, déjà les 4 nominés sont pas extraordinaires. Alors, on va s'écouter une petite musique. Hein,
parce il n'y a plus Lady Gaga.
Oui. Oui, c'est pas faux. On va s'écouter.
Hey, meilleur scénario original. Moi, je dirais, j'hésite entre À couteau tiré et Parasite. Voilà, Parasite.
Oui, mais on, c'est pas grave. On va pas tous les faire, sinon on n'est pas arrivé au bout. On va s'écouter l'opening de.
Attends, meilleur maquillage et coiffure.
Je m'en fiche. De Jung Jae-il.
Non, on arrive au fond du
Parasite.
Tiroir. Tu sais qu'il fallait faire les courses quand t'as un.
On va s'écouter ça. Et on revient juste après. Voici à Je vais au ciné, on va parler d'un film qui s'appelle La ligne rouge.
Oui. Ah, c'est à moi ?
Ah bon, bah, okay. Oui, bah oui, parce
ah,
que
bah,
alors,
c'est parti.
Parce que moi, c'est pas un film que je connais et que je n'ai pas vu en plus. Donc
bon,
je
bah
pas
alors
trop
du
en
coup,
parler.
Antoine, il ne reste plus que nous. Oh. Alors, La ligne rouge, c'est un film de Terrence Malick sorti en 1998. C'est un film de guerre qui montre un petit peu le quotidien des soldats américains.
Mais pas tant que ça en fait.
Ah non, bon bah tant pis.
Le quotidien, je badis justement.
Non, non mais
des
il
batailles.
Montre la guerre, il dit
il montre
la guerre.
Non, non justement, il montre le quotidien des soldats embarqués sur l'île de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Voilà. En gros, pour poser un petit peu le contexte du film. C'est le troisième film de Terrence Malick, qui est, on va pas se mentir, le réalisateur le plus mystérieux de tout Hollywood.
Bon, le Stanley Kubrick, il y a qu'un côté... En tout cas, à la sortie de ce film-là, il avait, bon, il a toujours un peu son aura, mais en... En 20 ans, il avait fait 3 films, non, c'est ça
En fait, oui, c'est même en plus que ça, parce que son premier film, La balade sauvage, date de 1973. Ensuite, il a fait Les moissons du ciel, pour lequel il a été, il a assis sa carrière, son nom dans Hollywood, enfin du moins dans le cinéma indépendant. Là, on est clairement dans le cinéma indépendant, on n'est pas du tout dans le blockbuster. En 1978, et du coup, il a eu une petite pause de 20 ans où il a totalement disparu des écrans et il est revenu avec La ligne rouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire
Ce qui est quand même assez particulier aussi chez ce réalisateur. C'est que ces trois ou quatre premiers films, il y a des, parce que c'est pareil, après Le Nouveau Monde, il y a eu,
sept
ans d'écart, et à partir de Tree of Life, donc Palme d'Or,
il en fait sort un film tous les ans ou tous les deux ans. C'est ça. Il a augmenté sa productivité.
D'ailleurs, le dernier film de lui, Une vie cachée, est peut-être toujours encore au cinéma. Peut-être plus.
Je crois qu'il n'y est plus.
Il est sorti là,
Ça fait pas très longtemps, ouais. Alors, que dire de La Ligne Rouge, si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, on va peser nos mots.
Je vous crois.
Ce n'est pas un film qui est facile d'accès. On va tout de suite dire, Malick a ses tics de réalisation. Il a une grande passion pour la nature. Donc, on a beaucoup de plans sur la nature, sur les champs, sur les animaux, sur l'environnement. Il y a des plans qui s'étendent vraiment longtemps. Parce que Malick a ce tic de réalisation qui pose la caméra. Il filme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il laisse la caméra tourner très, très longtemps. Et ensuite, au montage, tac, il coupe ce qu'il veut.
Les films de Malick, c'est des films de monteur, en fait. Il filme, des fois, il se fout un peu même du scénario. Et puis, c'est au montage où il faut qu'ils essayent de raconter un truc qui tienne la route.
C'est ça
qui est perturbant.
C'est des films qui sont très contemplatifs. Il y a aussi l'utilisation qui est assez caractéristique du cinéma de Malick, c'est la voix off. Dans quasiment tous ses films, il y a une voix off en fait qui est un peu la voix intérieure de ses personnages. Et c'est très utilisé dans La Ligne Rouge, parce que dans La Ligne Rouge, il n'y a pas une voix off, il y en a plusieurs. Il y a les trois personnages principaux du film, on va dire, enfin du moins ceux qui ont le plus de temps à l'écran, ont une voix off où ils racontent un petit peu leur état d'âme. Et là où la voix off peut être un peu pénible comme procédé, moi personnellement je sais que je suis pas fan de la voix off, chez Malick ça me dérange pas parce qu'en fait la voix off ne sert pas à expliquer ce que tu vois. Il te filme un truc, il te raconte quelque chose d'autre. Donc, ça vient jamais en doublon. Donc, c'est pour ça que ça ne me gêne pas. Je les trouve même bien à leur place, les monologues, les voix off dans le cinéma de Malick. Son film est une expérience sensorielle, clairement. Ça doit se vivre comme une expérience sensorielle. C'est un film où chacun, on va le recevoir différemment selon son vécu, selon les films qu'on a vus, les films que l'on n'a pas vus, les films qu'on a aimés, les films qu'on n'a pas aimés. Je mettrais quand même une... qu'on a vu dans Person of Interest, qui fait Monsieur Mus dans Person of Interest, qui a cette carrure de soldat. Parce qu'il fait le mec un peu baraque, un peu voilà le mec viril qu'il faut pas trop venir marcher sur les pieds. Il a ce charisme là, mais il a une douceur dans le regard. Qui atténue.
Effectivement, il est musclé, bon c'est un militaire.
Oui, voilà, mais on y croit.
J'ai pas cette impression de Monsieur Muscle en fait. Enfin, tu vois.
Parce que Monsieur Muscle, c'est dans Person of Interest, c'est pas dans voilà. Mais il a la carrure du soldat, mais il a une douceur dans le regard. Cet acteur que je trouve dommage qu'on ne voit pas plus en fait.
C'est vrai qu'il a pas percé.
Ouais, il a pas percé. Il dégage ses émotions par le regard. Et là, je pense que c'est là qu'on voit que Malick laisse tourner la caméra jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Je pense que les plans où on s'attarde sur le visage de Caviezel, je pense que c'est des scènes qui ont duré extrêmement longtemps, qui ont dû être éprouvantes à tourner jusqu'à ce que Malick obtienne ce qu'il veut. Ce film, je trouve qu'il est magnifique et je trouve que malgré sa durée des 3 heures, est une bonne porte d'entrée du cinéma de Malick. Si vous avez aimé La Ligne Rouge, vous allez potentiellement pouvoir aimer les autres films qu'il a fait, potentiellement, parce qu'après, chaque film est différent. Mais si le parti pris dans La Ligne Rouge ne vous plaît pas, c'est même pas la peine d'aller voir les autres films. Parce que tout ce qu'il a fait avant, c'est pour préparer La Ligne Rouge. Chacun de ses films est une étape dans sa construction et sa manière de réaliser, sa manière de construire devient plus complexe, plus élaboré au fur et à mesure de ses films, jusqu'à ces dernières années où il a quand même perdu pas mal de son aura, puisqu'il a produit des films qui ont été extrêmement divisés. Avec Voyage of Time, Night of Cup qui a limite bidé.
C'est qu'à un moment, il faut qu'il fasse un peu de succès parce que c'est bien beau de faire des films jolis, mais bon, si ça marche pas.
C'est ça. Mais du coup, avec Une vie cachée, il est revenu.
Ce que j'avais entendu sur Une vie cachée, c'est qu'on sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens derrière, en fait. Moi, le seul film que j'ai vu de lui, c'est ce film-là. J'ai jamais vu les autres. Moi, j'ai eu de la chance de le voir au ciné en 98 quand il est sorti. Il est sorti quelques mois après le soldat Ryan, autant dire que...
Deux salles, deux ambiances.
Voilà, je me souviens que... la scène d'intro du soldat Ryan, et la scène d'intro de la ligne rouge, calme plat, personne ne l'avait vu.
La scène d'intro de quoi?
et c'est vrai que c'est perturbant parce que c'est un film, autant je sais que quand je regarde des films d'animation japonais, c'est souvent la nature qui est mise en avant. Là, c'est pareil. De ce que j'ai vu, c'est ça qui.
Les Japonais ont une relation à la nature.
Et c'est vrai que lui, c'est ça, c'est cette scène. Je crois que c'est au début où il est dans le village autochtone. On voit des gamins qui jouent. C'est super beau. Ouais. Il me reste deux plans de ce film. Il me reste un plan. Alors c'est marrant parce que de mémoire, pour moi, ils sont ralentis, mais je sais pas si.
Non, ils sont pas ralentis. C'est juste lent.
On voit les militaires qui marchent dans des espèces de grandes fougères et ils croient à une espèce de papou. C'est pas ce que c'est en fait. Et on voit cet univers qui se croise. Je pense que autant les militaires sont des extraterrestres pour le papou, et autant le papou est un extraterrestre pour les militaires. En fait, le gars, il est à moitié à poil, il a rien. Il y avait une autre scène où, pareil, c'est de mémoire. J'ai l'impression qu'on les voyait courir. Et d'un coup, j'ai l'impression que c'était du ralenti. On voit un papillon qui traverse l'écran, en fait. Donc c'est un plan plutôt court parce que il met pas 3 heures à traverser l'écran, le papillon.
Non.
C'est plein de.
Après c'est Malik, il pourrait mettre 3 heures à traverser l'écran. Il peut le faire.
ce qui est assez marrant, c'est que maintenant c'est vrai que Malik il fait des films tous les 2 ans, mais à l'époque donc c'était son 3e film. Et quand je lisais les critiques, c'est ce qui m'avait aussi poussé à aller voir ce film, c'était qu'il avait une aura, ce gars-là. En étant invisible, en ayant fait juste 3 films en 25 ans. Et on n'a pas lu là, mais il y a un nombre d'acteurs, les acteurs de l'époque se battaient pour passer dans le film. Ils ont des fois des rôles, George Clooney, on doit le voir 5 minutes.
Il y a George Clooney, Sean Penn.
Adrien Brody, George Clooney, John Cusack, Harry Harrelson,
Woody Harrelson,
Elias Koteas. Ouais. John C. Reilly, John Travolta,
Jared Leto.
C'est impressionnant. Et c'est vrai que moi, quand ce film était sorti, je voyais. Alors, des fois, c'est pas toujours bien de suivre un peu là, quand tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Mais j'ai été au cinéma et j'ai pris une claque.
Grosse claque monumentale. Là,
Et c'était l'un des rares films où j'avais l'affiche dans ma chambre en fait. J'étais pas du genre à avoir beaucoup d'affiches sur les murs de ma chambre, mais j'avais acheté cette espèce de casque là.
Il y a un casque sur une croix de bois, ouais.
Ouais. Et je me demande si c'est pas un peu. Alors, on a souvent tendance à dire ça, à mettre ça à toutes les sauces, mais si Terrence Malick, qui a un certain âge maintenant, mais si ce serait pas le Stanley Kubrick d'aujourd'hui, en fait. Il a une façon de filmer. Ça ressemble tellement à rien et on peut ne pas aimer ses films tellement. On peut ne pas les comprendre aussi tellement ce qu'il fait, c'est particulier.
Pour moi, c'est pas un Kubrick.
Dans sa façon de faire, dans son jusqu'au boutisme, alors c'est sûr que c'est pas aussi cadré, c'est pas aussi léché. La musique, on en parlera, mais il n'a pas la même utilisation. Mais il a, mine de rien, c'est tic à lui, il est atypique.
Il est complètement atypique. Pour moi, c'est pas un Kubrick. Kubrick avait pas le même propos, il était pas aussi contemplatif. Quand il était contemplatif,
quand je dis Kubrick, je dis pas qu'il pompe Kubrick. Je dis qu'il c'est l'un des rares cinéastes actuels qui a sa propre
univers
et qui peut juste à l'évocation de son nom faire peur en fait.
Ah, je confirme, il fait peur.
Tu vois, on va voir le dernier Malick, en plus Palme d'Or.
Ouais, il a une aura de film chiant.
C'est encore un genre encore
en fait, alors qu'en fait, non, c'est plus compliqué
que ça. C'est
le
genre de film où tu comprends pas, donc tu dis merde, il me prend pour un con en fait. Enfin, le gars, il est plus intelligent que moi, donc je capitule et je vais aller voir les Tuches 4.
Après, c'est des films qui peuvent faire peur, qui sont pas forcément faciles d'accès, on va être honnête, mais qui prennent pas le spectateur pour un con.
Oui.
Pas du tout.
Si
tu rentres suffisamment dans le film, alors pas la ligne rouge, j'ai plus ou moins tout compris, donc là ça va. Mais film d'avant, Les Moissons du Ciel, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai quand même passé un très très bon moment.
Ouais. Tu l'as trouvé où celui-là ?
De quoi ? Les Moissons du Ciel ? Ouais. Il est sur Amazon.
Sur Amazon, d'accord.
Ok. On s'arrête là-dessus ?
Non, on va parler de la musique.
La musique ?
La musique.
Le chef-d'œuvre de Hans Zimmer.
Si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez au moins la musique. C'est le genre de film où la musique. Ouais, la musique, elle a dépassé l'œuvre.
Ah bah oui, parce qu'elle a été ressortie dans je ne sais pas combien de pubs.
Bah là, elle est dans une pub. Alors je ne sais plus ce que c'est. C'est des mutuelles, non ? Mais c'est c'est une espèce de. Alors vas-y, je te laisse. C'est toi le spécialiste de la musique.
Oui, c'est un chant amérindien folk, un peu de chez eux, quoi, en fait. Et ça a été tellement réutilisé que voilà, si vous allez voir le film et qu'à un moment vous allez entendre ça, vous allez... c'est une pub ça.
Oh, il a piqué à MMA.
Sinon, tout le reste de la musique a été faite par Hans Zimmer et voilà, je pense que c'est pas peser mes mots de dire que c'est la meilleure bande son que Hans Zimmer a produit à ce jour. Et ça date de 98. Ça en dit long, hein. Mais
ouais, il va falloir qu'il
fasse
quelque chose.
Ouais. Spoiler. Bientôt sur vos ondes.
Donc on va s'écouter une petite musique. Ça va être Les Films de Guerre de Sanseverino, puisque c'est un film de guerre, donc je me suis dit tiens, ça ira bien avec le sujet. Tout de suite.
Arme atomique, espion germanique, prince héritier, complice du KGB. Bourville, Richard Burton, le gros général Patton sont dans les films de guerre. Avion US plein de napalm, hélicoptère noir si semble le ciel du Vietnam. Des chars qui roulent sur des gens, chinoiserie sur grand écran. THX, THI, colons anglais et portugais, film italien sur des bandits mexicains. De beaux officiers allemands, tirailleurs sénégalais, entente cordiale et internationale. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. On dirait de la bande dessinée. On voit les prisonniers des bras arrachés. Ils nous font quand même coucou derrière les barbelés. Pas rancunier les gars, merci, je m'en rappellerai.
Pour nous faire croire que tout est calculé, ils nous apprennent les ruses du métier. Interversion d'uniforme pour approcher l'ennemi.
C'est même pas un mi.
Retardement qui pète pile au bon moment.
Bah ouais.
Cintrées les femmes lieutenants ne sont là que pour la scène du nu. Tu sais l'amour sur la plage après 8 heures de lance-flammes, ça détend. C'était le bon temps, les films de guerre, les figurants morts de rire, la gueule en sang. Aujourd'hui double cacheton pour ceux qui tombent du pont. Le charnier, c'est beaucoup mieux payé. C'est devenu ça, les films de guerre. C'est devenu ça, les films de guerre. C'est ce que je préfère, les films de guerre. Bombe à retardement qui pète pile au bon moment.
Nous revoici sur Je vais au ciné. On va parler d'un film. On va parler de Deux mois de Cédric Clapiche.
Moi, M-O-I.
Oui, et puis deux comme le chiffre. Oui, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Alors, on va parler encore de deux personnes.
Le chiffre et moi, M-O-I, ça a un sens. Ah, mais c'est le mois, le calendaire.
Non, oui. Non, le mois, moi. Moi, ah, moi.
Ouais, ouais. Moi, moi. Oui, toi, mon toi, moi, moi, mon moi.
Voilà. C'est deux personnages, un personnage masculin, un personnage féminin, voisins, qui vivent dans le même... quartier, parce qu'ils sont voisins.
Ah, ils sont plus que voisins, oui. Ouais, côte à côte.
Ils sont côte à côte, ils ont une cloison qui...
Ouais, on est à la bourre.
On fonce.
Voisins, on a compris.
Et ils sont tous les deux... comment dire? Ils sont tous les deux un peu...
voisins?
Pas, non, mais pas...
perdu dans perdu, une ouais. vie qui va trop vite.
Oui, perdu dans la ville, quoi, on va dire ça comme ça. Et ils sont pas prêts à se rencontrer, finalement. Et tout le film, en fait, c'est le tout ce qu'ils doivent faire pour arriver à finalement se rencontrer, puisqu'ils se croisent à plein de moments sans jamais se rencontrer.
Bah, c'est ce que critique un peu Clapiche dans ce film, c'est en disant que voilà, on passe, en fait, on se croise mais on se parle plus, quoi.
Alors en acteur, c'est François Civil et c'est qui l'acteur?
En François Civil, Anna Girardot.
D'accord.
Et en second rôle, Camille Cotin et François Berléand en psy.
Ouais.
Ah, oui, oui, et rien que pour ça, allez voir le film. François Berléand en psy,
c'est extraordinaire.
Il faut voir ça, c'est extraordinaire. Oui.
Et puis, alors vraiment en psy en fin de carrière, quoi. Tu vois,
en début de carrière, ça aurait pas été crédible.
Ouais, mais en fin de carrière,
en
roue libre. Ouais, c'est un peu ça. Il est tranquille, quoi. Il se fait plaisir. Enfin, tu sens que c'est le psy, il en a plus rien à foutre.
Ouais. Camille Cotin, c'est la psy déjantée.
Ouais.
Ouais, c'est lui qu'on vient dans le même rôle.
Un peu toujours dans le même rôle, ouais. Ça marche. Ça marche. Ouais. Franchement, ça marche.
Et c'est, je me souviens parce que j'avais hésité à le voir à sa sortie. C'est un film romantique ou pas?
C'est plus une comédie dramatique. Romantique, non, parce que.
Parce qu'au final, il n'y a pas d'histoire d'amour.
Il n'y a pas le temps d'avoir une histoire d'amour.
Non, c'est pas ça, c'est pas le propos du film en fait. Parce qu'en fait, l'histoire d'amour commence quand le film se termine.
Ouais. D'accord.
Bah, c'est la rencontre. Globalement, la fin, c'est la rencontre.
C'est ça.
Donc, c'est même pas un film romantique puisque les films romantiques commencent à ce moment-là. Là, son film se termine.
Donc, alors, c'est quoi l'enjeu du.
L'enjeu, c'est leur évolution pour que peut-être il y ait une histoire d'amour.
Pour qu'ils s'ouvrent aux autres, en fait, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont autour d'eux. Parce qu'en fait, ils marchent dans la ville, mais ils ne voient pas ce qu'il y a autour.
Oui, et puis ils sont dans leur routine, ils sont dans leur vie, et sans forcément avoir de lien avec les gens. Et puis finalement, ils font un peu le bilan de leur vie, et qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Parce qu'ils n'ont pas tellement d'objectifs dans leur vie.
C'est ça.
Donc quel âge ces jeunes gens dans le film là?
Bon, c'est des trentenaires.
Trentenaires, oui, globalement.
Ils n'ont toujours pas trouvé à 30 ans ce qu'il fallait qu'ils fassent.
Bah, ils ont une situation et sorti de ça, ils ont rien.
C'est ça.
Voilà.
En fait, professionnellement, c'est juste que au niveau personnel, ça.
Voilà,
ça pêche.
Ils vivent, mais voilà, point. Ça s'arrête là. Et tout l'intérêt du film, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont, et au début, on a l'impression qu'ils sont assez similaires, et finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas si similaires que ça.
Mais ils ont chacun leur propre névrose de leur côté. Ouais.
Leurs propres objectifs, leur propre névrose, leur propre. Voilà.
Oh, c'est pas un grand film, monsieur. C'est un film ça se regarde bien, c'est sympathique. C'est sympathique, c'est mignon.
Le personnage que je trouve le plus marrant, c'est celui de Simon Abgarian.
Qui joue un gérant de supérette.
Un épicier.
Un escroc de première.
Lui, il est excellent. Il est excellent. C'est le rôle que je l'ai vu, mais je l'ai trouvé excellent à chaque fois.
Vous me conseillez quel riz ? Celui-là, c'est le plus cher. Ben oui, mais c'est le plus bon.
C'est le meilleur. Moi, je fais le moins cher et le meilleur.
Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la série... Kabul Kitchen. Ah ouais, il était grandiose.
Mais là dans ce film, je trouve que l'acteur qui ressort le plus, c'est lui. Les autres, ils jouent leur rôle, mais lui,
je trouve que Anna Girardot, elle est vraiment bien. François Civil est un petit peu.
Il est quelconque comme il a toujours été, je trouve.
Oui, mais après, c'est son personnage qui est comme ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne nous saute pas aux yeux. Mais Anna Girardot, moi, je la trouve assez pétillante.
François Civil, je l'ai toujours trouvé quelconque dans ses rôles. Donc, vous avez trouvé plus ni moins que d'habitude.
C'est un avis.
Mais Anna Girardot, elle est plaisante. Mais je trouve que vraiment, celui qui ressort, c'est lui, c'est Simon Abgarian.
Mais au final, c'est même pas un second rôle, c'est un tiers rôle. On le voit trois fois dans le film. Quoi, donc, après, c'est un ressort comique.
C'est aussi le personnage qui permet de voir l'évolution des personnages.
Oui, parce que c'est une connaissance à eux deux.
C'est une connaissance, et c'est la même connaissance qu'ils ont tous les deux. Ouais. Et ils vont régulièrement dans son épicerie. Donc à chaque fois,
c'est ce qu'on pourrait reprocher d'ailleurs au film, parce qu'au bout d'un moment, tu n'y crois plus trop. Ils se sont jamais rencontrés, se sont jamais croisés, alors qu'ils vivent ensemble, qu'ils vont à la même épicerie.
Qui sont dans le même quartier.
Ils sont dans le même quartier, tu dis.
À un moment, ils peuvent.
Ok, je veux bien, mais bon, quand même. Au bout d'un moment, c'est un peu gros.
Mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts, ni l'un ni l'autre, à se voir.
Oui. Non, mais c'est là qu'on quitte le côté réaliste dans le monde dans lequel se place Clapiche. Parce que Clapiche, il y a toujours un petit côté un peu fantaisiste dans ses films.
Oui, mais alors.
Même à l'époque de l'Auberge espagnole, il y a un petit côté fantasmé qui s'éloigne de la réalité.
Contrairement aux Américains où tout de suite ils se verraient, ce serait le grand amour et voilà.
Ça serait plus une comédie dramatique du coup.
Mais c'est pas. Dès qu'ils vont se croiser dans la rue, boum, ça y est, ils vont se croiser plein de fois sans se voir en fait. Et c'est tout l'intérêt du film finalement, c'est de se dire qu'ils sont pas prêts et au moment où ils sont prêts, ils se voient en fait. Alors aussi la situation permet qu'ils se voient.
Ah, c'est compliqué de pas se voir. Hein. Mais, on les invite ils sont binômes de danse. Hein.
Mais c'est compliqué. Mais ils se découvrent alors qu'avant ils se voyaient pas.
C'est ça.
C'est tout l'intérêt du film.
Voilà.
Voilà.
Allez le voir,
c'est intéressant.
Voilà. Il y aurait tout un truc à faire sur les trentenaires d'aujourd'hui.
Mais il y en a déjà quelques-uns et ça continue parce qu'il y a de la matière.
Putain, il y a déjà beaucoup. Ouais.
La présentation des trentenaires d'aujourd'hui, des dépressifs.
Ça fait pas rêver.
Ouais,
hein.
Non, ouais.
Ça fait pas rêver.
On va terminer là-dessus.
Je suis trentenaire et ça va. Merci.
On va terminer là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine.
Enfin, même jour, même heure.
Même jour, même heure.
Le problème de gestion de tes larmes, je t'ai déjà dit.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.